Merci beaucoup Vincent, effectivement, c'est parti, Allô Bouvard, avec vous, Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour Philippe.
Bonjour Isabelle, bonjour vous tous. Bonjour les problèmes et, si possible, bonjour les solutions.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
C'est un coup dur pour les casseurs. Les amendes infligées aux trublions sont passées de 38 à 135 euros. Bon, et il y en a déjà plus d'une centaine qui, l'autre samedi, ont été dressés, dont 53 à Paris. Alors, je vais demander à Maître Fix, que nous connaissons bien et qui est huissier de justice à Versailles, s'il y a une petite chance de faire payer les agités du samedi. Hein, Maître ?
Ah oui, bonjour, bonjour Monsieur Bouvard. Oui, tout à fait, il y a plein de possibilités. Là, vous êtes dans le cadre, si vous voulez, à partir du moment où l'infraction a été constatée et qu'on a une personne avec un nom, et c'est ça qui est un petit peu compliqué avec les événements actuels, on peut effectivement avoir une amende et après aller la recouvrer.
Oui, alors, mais attendez, il y a un quart des amendes dont on dit qu'elles sont contestées. Alors, celles-là, elles ne sont pas payables tout de suite.
Alors oui, on a effectivement, heureusement, encore le droit de contester les amendes, puisque parfois, il y a un ensemble d'éléments qui permettent de les faire sauter, entre guillemets. Et ensuite, vous avez aussi tout le côté prescription. Vous vous rappelez très rapidement que si on vous poursuit, vous faites une infraction, si dans l'année, l'État ne vous poursuit pas, eh bien, c'est prescrit. Par contre, si vous faites une infraction et qu'on vous poursuit, qu'on vous envoie une lettre recommandée ou que le procureur vous a saisi ou que vous êtes convoqué devant un tribunal et qu'il y a une décision qui a été rendue, là, c'est dans les 3 ans que l'État a à faire pour recouvrer cette somme. Et ensuite, l'État, elle nous transmet à nous, les huissiers, ces amendes et on essaye d'aller rencontrer les gens et de les faire payer.
Est-ce qu'éventuellement, si vous avez affaire à un mauvais payeur, vous pouvez saisir un gilet jaune ?
Alors, s'il est de valeur, s'il a été porté par une personnalité, pourquoi pas ? Ou s'il est en grand nombre, en fait. S'il est, effectivement, si quelqu'un stocke des milliers de gilets jaunes, peut-être ça a une valeur. Mais sinon, M. Bouvard, j'ai peur que ça soit un peu juste pour payer l'amende.
Les très mauvais payeurs risquent-ils la prison ?
Alors non, ça n'existe plus. La prison pour dette en France, elle n'existe plus depuis bien longtemps. Alors après, c'est dommage, c'est pas dommage. Mais on peut noter que, par exemple, en Europe, c'est un petit peu différent. Il y a l'exemple de l'Allemagne, où effectivement, si on ne paye pas ses dettes, l'huissier sur place, dans certains landers, peut mettre en prison, en détention, le débiteur. Mais ce qui n'est pas le cas en France.
Alors, à quelle cause principale faut-il attribuer le non-paiement d'une amende, l'insolvabilité, la mauvaise volonté, ou bien le fait qu'on n'a pas d'argent et qu'on en aura peut-être plus tard ?
Alors, M. Bouvard, en fait, tout ce que vous dites est vrai. C'est un mélange de ça. La première cause, il y a un tiers des amendes à peu près qui effectivement sont des gens qui sont insolvables. La vérité est là. Moi, par exemple, lorsque je poursuis des gens qui ne payent pas leur ticket de métro ou de train, sont souvent une population en grande difficulté. Donc là, il n'y a pas à discuter, on constate l'insolvabilité. Après, vous avez un bon tiers de bien français que vous connaissez très bien, qui lui est pas content et qui de toute façon, même s'il a été pris la main dans le sac, il a grillé le feu rouge, il était dans un sens interdit, il conteste.
Est-ce qu'on ne peut pas aussi imputer ces retards ou ces défauts de paiement à la défaillance du logiciel ?
Alors ça arrive, ça marche de mieux en mieux. Le drame, il est là pour nous, contribuables, c'est que ça marche de mieux en mieux. Vous avez bien vu que maintenant, il y a un site internet amende.gouv où vous pouvez payer par carte bleue juste. Même vous avez rentré votre carte bleue et vous mettez le numéro d'amende et hop, le paiement se fait automatiquement. Non, ça marche bien maintenant. C'est vrai que vous avez raison, il y a une quinzaine d'années, c'était un petit peu empirique. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont très au point.
Est-ce que quand l'employeur est tenu de payer à la place d'un salarié défaillant, il est autorisé à imputer ce paiement sur le salaire ?
Alors non, malheureusement, il a l'obligation de dénoncer. Ça, c'est une nouveauté. Depuis quelques années, effectivement, il y a une obligation de dénoncer celui qui a commis l'infraction qui était au volant, si c'est une infraction au code de la route. Maintenant, il ne peut pas de lui-même le prélever sur le salaire sans l'accord du salarié. En fait, il faudrait faire une saisie du salaire. Et là, c'est une procédure à part et particulière. Donc non, on ne peut pas se faire justice à soi-même. L'État, s'il doit recouvrer une amende et qu'il n'arrive pas effectivement à avoir le nom d'auteur, puisque la carte grise est au nom de l'entreprise, eh bien, effectivement, si l'employeur ne dénonce pas, c'est l'employeur qui sera poursuivi. Et je vous rappelle que cette amende, elle a été énormément augmentée. On est à plus de 450 euros lorsqu'on ne dénonce pas la personne qui était au volant.
Est-ce qu'il faut regretter l'absence d'amnistie, comme ça s'est produit très très longtemps, à chaque élection présidentielle?
On gère, vous l'avez compris, des volumes considérables. Alors l'informatique nous aide. Mais moi, modestement, je gère sur un département peut-être 12 ou 13 000 amendes. Donc ce sont des volumes considérables. Donc effectivement, l'amnistie, ça permettait de faire un petit peu le ménage, de repartir du bon pied, avec des dossiers qui parfois sont un peu bancals, où on retrouve pas les pièces, ou si c'est contesté, c'est un petit peu difficile, où la personne a déménagé, on la recherche, elle a changé 3 fois d'adresse, etc., etc. Non, il faut le regretter. Je pense que c'était une façon un petit peu de repartir propre. Alors peut-être que le nouveau président, là, s'il est renouvelé, peut-être fera une amnistie, on ne sait pas.
Maître Fix, vous aviez publié il y a quelques années un très bon livre où vous faisiez état de la difficulté d'exercer vos fonctions d'officier ministériel parce que vous aviez affaire à des gens plus ou moins bien élevés et en tout cas qui étaient rebelles à la loi. Et puis il y a eu parallèlement dans d'autres sphères voisines de la vôtre une montée de la violence. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous ?
Alors oui, ça c'est général en fait dans tous les métiers d'autorité. Effectivement, aujourd'hui on ne reconnaît plus l'autorité et on a une jeunesse, c'est pas lié aux personnes les plus jeunes, mais globalement quand même, la nouvelle génération qui arrive, les 15-35 ans, la police, l'huissier, les gendarmes, tout ça, on est en quantité négligeable. Et donc ça c'est un petit peu, il faut s'y adapter, il y a une attitude à avoir. Alors on arrive quand même à faire passer le message et à quand même à appliquer les décisions de justice. Mais c'est vrai que le monde évolue, c'est comme ça. C'était peut-être mieux avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça et on s'adapte quand même. Et pour finir sur une note positive, on arrive quand même pour l'essentiel à recouvrer les amendes. L'État recouvre 95% de ce qui lui est dû, qui est quand même considérable.
Enfin, est-ce que vous ressentez ce que les pouvoirs publics ont cru noter, à savoir une baisse du surendettement privé ?
Alors, pas du tout. Honnêtement, c'est le contraire. En Ile-de-France, on a un surendettement qui est croissant, on a plus de dossiers de gens qui sont surendettés et qui, en plus, maintenant, utilisent. Avant, on n'avait pas peu de gens malhonnêtes, on avait beaucoup de gens en difficulté qui utilisaient le surendettement. Là, maintenant, on a une frange de la population, en tout cas de ce que je peux en voir moi, prend à dessein des crédits à la conso, se surendette et ensuite va voir la Banque de France pour faire annuler sa dette. Et ça, c'est parfois très difficile à faire passer aux créanciers, quelqu'un à qui on doit de l'argent et que du jour au lendemain, on lui dit « non, mais finalement, il est endetté, donc on annule tout ». Et ça, ça peut choquer, ça peut heurter.
Merci, Maître. Je vous souhaite beaucoup de courage et un peu d'humanité.
Merci, Monsieur Bouvard. C'était un plaisir.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
La question qu'on s'est posée, mais à mi-voix, pour ne pas vexer notre hôte, lors de la visite du numéro 1 chinois en France, comment la Chine est-elle devenue la deuxième puissance économique mondiale ? Il faut dire que depuis 40 ans, elle avait une croissance de 10%, ce qui nous laisse rêveurs quand on connaît notre rythme à nous. Et puis, en fait, c'est une très vieille histoire. Il y a une phrase qu'on prête à Napoléon et qui n'a jamais été démentie et pour cause. « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Et il se trouve que, bien des années après, un ministre du général de Gaulle, qui se nommait Alain Perfitte, en a fait la moitié du titre de son best-seller « Quand la Chine s'éveillera ». Les atouts de la Chine, on les connaît. C'est pas le pays le plus vaste, parce que la Russie et le Canada sont un peu plus étendus. Mais c'est le plus peuplé, avec 1,4 milliard de Chinois, c'est-à-dire un cinquième de l'humanité, quand même. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont puissamment aidés par la diaspora chinoise. C'est 50 millions de Chinois qui œuvrent à travers le monde, alors parfois dans des petits restaurants, parfois à des postes clés très importants, et on estime à 600 ou à 700 000 le nombre des Chinois qui travaillent en France. Alors à quoi il faut ajouter 800 millions d'agriculteurs, hein, c'est énorme, et puis une mobilisation qui ne prend jamais fin parce qu'on fait appel à la fois au désir de bien gagner sa vie, mais aussi un certain patriotisme économique. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la Chine n'est pas à l'abri de problèmes sociaux. Pourquoi ? Bah parce que, d'abord, la religion, que dis-je, l'obligation de l'enfant unique a laissé des traces. La population est encore vieillissante, bien qu'aujourd'hui, on puisse avoir deux enfants. Et ensuite, il y a le fait qu'il y a une disparité énorme entre les salaires que l'on verse sur les régions côtières et les salaires qu'on verse dans les régions campagnardes. Ça peut aller de 20 à 30 fois inférieur ou supérieur selon la région. Donc, il faut faire attention aux Chinois, mais il faut aussi s'inspirer du bon exemple qu'ils donnent et de ce courage qui, parfois, est une leçon pour nous.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
L'abandon du numerus clausus va-t-il éviter que parfois il faille attendre 2 ans ou en tout cas plusieurs mois avant de voir, façon de parler, un ophtalmo? Eh bien, j'ai posé la question au professeur Yves Pouliquen, qui est à la fois, vous le savez, un spécialiste de la cornée et un membre de l'Académie française. Maître, ou monsieur le professeur, est-ce qu'il vaut mieux avoir aujourd'hui une DMLA en Île-de-France que dans le Finistère ?
Oui, écoutez, peut-être pas exactement entre ces deux comparaisons, mais enfin je sais en tout cas que dans 10 à 15% du territoire, il est plus difficile de consulter et d'avoir un rendez-vous avant 6 mois. Et là, nous sommes tous conscients, évidemment, de quelque chose qui est tout à fait inacceptable. Bien sûr.
Comment vous expliquez ça, mais monsieur le professeur, étant donné que, là, paraît-il, l'ophtalmologie reste la spécialité la plus demandée par les étudiants en médecine?
Exactement, mais parce que le numerus clausus en limitait chaque année le nombre. Vous savez, le syndicat national des ophtalmologistes français, depuis 2011, lance l'alerte en disant qu'il fallait obtenir parmi tous les médecins qui sont formés chaque année, tous les internes qui sortent et qui abordent leur exercice, qu'il fallait au moins 3% d'entre eux pour combler, si vous voulez, la demande des ophtalmologistes. Mais cela est resté sans réponse pendant longtemps. Je peux rappeler qu'en 2010, par exemple, on accordait seulement 100 à 105 postes d'ophtalmologie chaque année, alors qu'il en fallait au moins 150. Et ces 150 étant un minimum pour combler, pour répondre aux demandes des ophtalmologistes, parce que celle-ci a été parfaitement étudiée. Les effectifs de l'ophtalmologie, entre 1990, par exemple, et 2010, ont augmenté de 4% seulement, alors que l'augmentation des actes en ophtalmologie atteignait 70%. Et vous pouvez comprendre qu'entre ces deux chiffres se situait le drame qu'ont connu tous les Français lorsqu'ils voulaient joindre un ophtalmologiste.
Est-ce que le numerus clausus régional ne permettrait pas une meilleure répartition sur les territoires ?
Alors je pense, si vous voulez, que la levée d'ailleurs, la suppression du numerus clausus va ouvrir une grande liberté. Et je pense que effectivement, les régions vont pouvoir librement dire ce dont ils ont besoin, et d'ailleurs en toutes les spécialités. Hein, et je pense que l'ophtalmologie ne pourrait qu'en bénéficier. Vous savez, les ophtalmologistes ont fait un très très grand effort depuis 5 ou 6 ans pour répondre à la demande des Français. Et ce ne sont pas eux qui sont responsables de ces difficultés dans l'obtention des rendez-vous. Des efforts ont été faits tout de même. Il faut reconnaître que désormais, c'est environ 150 étudiants qui étaient consacrés chaque année à l'ophtalmologie. Mais le nombre va probablement en augmenter légèrement pour combler justement ces lacunes. Et surtout, les ophtalmologistes ont pu obtenir d'être assistés maintenant couramment grâce à des dispositions légales pour certains actes qui permettront d'accélérer, si vous voulez, le turnover des patients.
Alors, est-ce que l'engagement de 4000 assistants, mais je pense que c'est déjà largement commencé, peut permettre aux ophtalmos de se libérer de certaines tâches et de traiter davantage de clients ?
Bien, très exactement, parce que la discipline de l'ophtalmologie a bénéficié de progrès considérables pendant les 50 ans derniers. Et désormais, si vous voulez, la pratique de l'ophtalmologie passe par une technologie de haut niveau, mais une part de cette technologie peut être confiée précisément à ces 4000 assistants qui vont les rejoindre. Donc ça écourte, si vous voulez, le temps de contact entre l'ophtalmologiste et son patient, mais ça réduit ce contact à une valeur, si vous voulez, une valeur ajoutée tout à fait notable, si bien que ce devrait à la fois améliorer, si vous voulez, le turnover des patients et aussi la qualité de la médecine que l'on pratique, car indiscutablement, la médecine ophtalmologique est très performante et en laquelle on peut avoir une extrême confiance chez nous.
Est-ce que vous trouvez normal que 40% des nouveaux ophtalmos aient passé leur diplôme à l'étranger ?
Non, ça, écoutez, bien sûr, la notion d'étranger, maintenant, s'est modifiée. L'espace européen, par exemple, quand même permet des équivalences de diplômes qui ne sont pas préjudiciables à la pratique ophtalmologique. Mais il est vrai qu'il y a encore quelques héritages qu'il faudrait peut-être, en tout cas, contrôler davantage. Et je pense que nous avons toutes les ressources en France pour former les ophtalmologistes dont on a besoin.
Est-ce que l'avenir n'est pas très sombre quand on pense qu'un retraité sur deux ne sera pas remplacé ?
Oui, alors là, oui, bien sûr. Je pense qu'on avait prévu ce déficit en ophtalmologiste. Je pense qu'il va quand même être assez rapidement comblé. Ce qui est inquiétant, si vous voulez, ce sont les perspectives des actes ophtalmologiques qu'il faudra faire à l'horizon d'une vingtaine d'années. Et qui augmente d'une façon considérable. Hein, on pense que les besoins de prescription en lunettes vont augmenter à l'horizon 2030-2040 de 15%. Mais le diabète va augmenter de 100%. La DMLA, le glaucome, la cataracte en besoin en 80%. Et on prévoit à cet horizon la perspective de 48 millions d'actes d'ophtalmologie par an, vous imaginez ?
Enfin, le nouvel ophtalmo qui s'installe et qui n'a pas de fortune personnelle, comment peut-il faire face aux dépenses d'équipement qui dépassent souvent 100 000 euros hein ?
Eh bien, ça impose, si vous voulez, des pratiques nouvelles. C'est qu'autrefois, on s'installait tout seul. Maintenant, ce sont des centres d'ophtalmologie qui se constituent et je crois que c'est une excellente formule parce que ça fait cohabiter 4, 5, 8 ophtalmologistes avec l'aide qui maintenant leur est permise dans des ensembles dont l'équipement est financé souvent par emprunt mais qui partagé par l'ensemble des ophtalmologistes et l'activité qui va en résulter est possible. Je pense que c'est vrai que maintenant s'installer seul en ophtalmologie d'une façon classique est périmé, ça ne se fait plus. Donc je pense que ces ensembles qui sont très performants, qui en plus permettent aux gens de répondre aux urgences, de se remplacer les uns les autres, est une formule qui devrait avoir un large destin.
Iriez-vous jusqu'à dire à ceux dont la vue baisse que leur avenir s'éclaircit ?
Oui, écoutez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'œil dévoilé, l'œil guéri ». Et j'y place justement les perspectives qu'on améliore considérablement la situation des malades malvoyants. Et je pense que nous avons une ophtalmologie qui est très, très efficace, très bien enseignée, et que si on approprie le nombre de praticiens à la population, qui a augmenté de 17% dans les 20 dernières années ou les 30 dernières années. Il faudrait en tenir compte. Elle a beaucoup vieilli aussi. Donc les demandes en ophtalmologie sont considérables. Mais je crois que nous sommes capables de résoudre le problème et d'assurer aux Français bientôt l'obtention d'un rendez-vous raisonnable, dans des délais raisonnables, et en tout cas des soins de très bonne qualité.
Merci Yves Pouliquen. Et
bien, bientôt, cher ami.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Comment le maire du Havre en est-il arrivé à confondre érection et élection ? Ah, bah, ça, alors, l'enquête est ouverte et on ne connaît pas grand-chose. Sinon que, bon, le maire du Havre a peut-être été victime d'une confusion de vocabulaire parce qu'il était membre, et le mot n'est pas anodin, de la France audacieuse, la bien nommée en ce qui le concerne. Il avait remplacé Édouard Philippe à la tête de la municipalité havraise lorsque Philippe est devenu Premier ministre, mais il était très proche de Philippe, hein, qui en avait fait préalablement son premier adjoint. Et puis alors, cet homme qui est apparemment de bonne compagnie, notable, assureur de formation, marié à une professeure des écoles, père de 4 enfants, avait une fierté démesurée, enfin démesurée, ça dépend des références, au sujet de sa virilité. Au point que, s'étant photographié le corps de ce qui est aujourd'hui un délit, il l'adressait par téléphone à 4 correspondantes qui n'en demandaient pas tant. Alors, lorsque le harcèlement sexuel emprunte cette forme, bah, on risque des mois de prison et des milliers d'euros d'amende. Alors, un seul texte d'accompagnement avec ces clichés, « Je suis ouvert à toute proposition ». En fait, de proposition, il n'y a eu que celle imposée par Philippe de démissionner de son poste. Et puis, un seul aveu quand même, hein. Il a dit « Oui, j'ai des mœurs libertines ». Mais en ajoutant cette explication, il ne s'agit que de communication virtuelle entre adultes consentants. Enfin, alors, virtuel, oui, c'est vrai, si on en est resté au stade de la photo. Consentant, c'est autre chose, puisque les dames ont porté plainte et qu'elles n'ont jamais réclamé ce type d'envoi. Alors, il faut noter quand même que les politiques sont souvent faibles de ce côté-là. Bon, bien sûr, il y a la référence absolue de DSK, à qui ça a coûté beaucoup, et peut-être la présidence de la République, de Denis Baupin, et même de Georges Tron, mal nommé, hein, puisqu'il s'intéressait aux pieds. En revanche, et je le souligne, aucune femme n'a jamais fait l'objet de telles poursuites.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
C'est le mot « sagesse » qui a fait débat toute la semaine, au moins lorsque Emmanuel Macron l'a employé à l'intention d'une militante âgée qui avait été blessée par un assaut de CRS dont elle n'avait pas entendu les sommations. Alors qu'il eût peut-être mieux valu de parler de prudence, que le dictionnaire présente comme une petite sœur de la sagesse et qui est aussi la fille de cette précaution dont le principe figure désormais dans la Constitution. À dimanche prochain.
Eh bien oui, Philippe, à dimanche prochain. Dans un instant, le grand jury RTL Le Figaro LCI, présenté par Benjamin Sportouche, sera pour invité Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Philippe, je vous embrasse.
Moi aussi.
Et vous écoutez RTL, il est midi.